On a étudié, on étudie toujours l'épître de Paul aux Romains. Et ce matin, je vais continuer dans cette optique que la lumière vient remplacer les ténèbres. On a fait la semaine dernière Je vous invite à vous tourner la page 1274 dans la version de la Bible que vous pouvez emprunter. Le chapitre 7, on a vu que c'était un chapitre sombre, lourd et décourageant. Paul nous explique que ce que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, ce sont des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme nos ancêtres de l'Ancien Testament en ont eu. Et il dit aussi que cela est arrivé à titre d'exemple, leurs aventures sont arrivées à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ça c'est dans 1 Corinthiens 10 qu'on trouve cette finalité de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Et en fait, il y a une très belle comparaison à faire entre l'histoire du peuple juif et la lettre de Paul aux Romains. Les premiers chapitres de Romains 1, 2 et 3 nous ont montré que nous étions tous malades, malades de la maladie du péché. Et ces trois chapitres correspondent en quelque sorte à la vie en Égypte du peuple d'Israël. Ils étaient esclaves du Pharaon. Nous pouvons rester dans ces chapitres et être esclaves du péché. Et puis nous voyons poindre l'espérance dans les chapitres 3 à 5. C'est dans Romains la description du salut. Et le salut, ça correspond à la délivrance de cet esclavage du péché. Ça représente pour les enfants d'Israël et l'Ancien Testament la délivrance d'Égypte, le passage de la mer des joncs. Certains disent la mer rouge, mais peu importe, c'est cette délivrance spectaculaire. Et puis, il y a Romains 7. On va sauter le chapitre 6. Mais Romains 7, ça correspond à ce qu'on appelle la vie dans notre vieille nature, la vie dans la chair. Notre chair, c'est notre partie, c'est notre vieille nature pécheresse, et c'est aussi la partie de notre intelligence qui n'a pas été renouvelée encore, si c'est le cas. Et Romains 7, c'est décourageant. C'est cette période pour le peuple d'Israël qui correspond à leur errance dans le désert. On dit qu'il ne faut que 11 jours pour aller à pied d'Égypte en terre promise. Et je me suis demandé, je n'ai pas encore fait les recherches, je me demande s'il n'y a pas des groupes de randonneurs qui font ce trajet pour vérifier que ça prend seulement 11 jours. Et je me dis, si les circonstances politiques le permettaient, j'aimerais bien faire ce périple en 11 jours. Parce qu'on sait qu'il leur a fallu bien plus que 11 jours, il leur a fallu près de 40 ans, 39 ans. Par manque de foi, ils ont tourné en rond. Ils n'ont pas cru la promesse de Dieu. Et nous aussi, on peut errer dans le désert par manque de foi. On peut vivre. On a été délivré, mais on est encore en butte au péché. Et on a l'impression de vivre comme Paul décrit sa vie dans le chapitre 7 de Romains. C'est intéressant parce que dans ce chapitre, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot de loi. Et puis un autre mot qui revient encore plus souvent, c'est le mot « je »,« moi », »,« moi-même », qui revient près de 40 fois, alors que dans le chapitre 8, il ne va être présent, je crois, que deux fois. Et il y a une transition justement entre ce chapitre 7 et ce chapitre 8. Alors, je vous rappelle que les divisions de la Bible en chapitres ne sont pas inspirées par Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a dictées. C'est un dénommé Stephen Langton, un Anglais, en 1227, qui a décidé de diviser les chapitres. Et des fois, on voit que il aurait pu aller un peu plus loin dans le chapitre 7. Et en fait, les quatre premiers versets du chapitre 8, ils font cette transition des ténèbres à la lumière. Vous vous souvenez que Paul s'écriait vraiment comme un cri de défaite et de désespoir au chapitre 7, verset 24, « Malheureux que je suis, ou malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Je remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Paul admet qu'il a des luttes dans sa vie de chrétien. Il y a des débats à savoir si c'était avant qu'il ne soit sauvé ou après, mais la façon dont il le décrit, les temps grammaticaux montrent que c'est quelque chose qui était encore un combat avant qu'il ne passe au chapitre 8. Et nous aussi, nous sommes dans cette même confusion. Nous avons des désirs profonds de faire ce qui est bien, mais nous voyons aussi, nous réalisons combien il est très facile d'agir en contradiction avec ce profond désir de faire du bien, de faire ce qui est bien. Et ça révèle d'abord nos imperfections, nous ne sommes pas parfaits, mais ça révèle surtout ce combat intérieur contre le péché. Alors c'est décourageant et en même temps, c'est, comme je l'ai partagé la fois dernière, quelque part ça nous montre que c'est pas du baratin, cette histoire de Bible. C'est pas quelque chose d'imaginé pour faire un joli récit de Noël. C'est pas un joli éléphant rose qui vient et qui amène le bonheur. C'est quelque chose avec lequel nous pouvons vraiment avoir un rapport d'expérience profond. Nous aussi, moi aussi, vous aussi, j'imagine, vous avez ce combat intérieur. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas ce combat intérieur en eux ? Je ne vous demande pas de lever la main. Papa, vous embarrassez. Nous nous faisons des illusions si nous prétendons que ce combat n'existe pas et que nous sommes parfaits. Si nous faisions cette réponse, ça ne ferait que renforcer l'intensité du combat en nous. Ce qui est prédominant, je trouve, à Noël, ce sont les émotions. Nos émotions. Il y a toute cette magie de Noël qui a été transmise ou pas depuis l'enfance, ces attentes qui sont autour de nous. C'est une période où il y a beaucoup de suicides parce que on s'attend à être heureux, On sait qu'on devrait être heureux, et si on ne l'est pas, c'est encore plus terrible à vivre qu'en temps normal. Et les émotions, c'est quelque chose que dont on fait l'expérience et qui détermine notre joie de vivre ou l'absence de joie de vivre. Votre joie de vivre, elle n'est pas conditionnée par votre revenu financier, vos revenus financiers. Elle n'est pas conditionnée par votre métier, par vos activités. Elle dépend de vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez au moment donné ? Satan veut nous mettre esclaves du péché. Il sait que le péché produit des émotions négatives. Il nous fait croire que le péché va nous amener que des émotions positives. Et il y a bien sûr, malheureusement, une certaine émotion positive vis-à-vis du péché. Le péché est attrayant par certains aspects. Sinon, il ne vendrait rien du tout. Et en même temps, si vous avez déjà vécu plus de quelques heures ou quelques jours, vous savez que le péché, ne pas faire la volonté de Dieu, ça produit des émotions négatives. On va regarder quatre de ces émotions négatives dans le dernier verset qu'on a survolé la semaine dernière, le verset 24 du chapitre 7. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Quatre émotions qu'on peut lire dans ces versets, dans ce verset. D'abord, je suis crevé. Serge Lama chantait « Je suis malade ». Mais le plus souvent, nous, ce qu'on chante, c'est « J'en peux plus, je suis crevé ». Il y en a qui ne sont pas crevés, fatigués ce matin. Tant mieux. Mais le mot qu'il utilise pour dire « malheureux », c'est celui qui a travaillé, qui a porté quelque chose jusqu'à l'épuisement. On a dit que ça pouvait décrire aussi celui, le boxeur qui était complètement dans les cordes, qui avait eu le visage martelé par les coups de poing, qui avait du mal à respirer, qui voyait plus très bien, qui saignait. Et c'est un peu le sentiment de Paul dans son combat contre le péché. Je suis épuisé. On peut essayer par des méthodes humaines, des bonnes résolutions. Faites attention, ça va arriver bientôt. La psychologie, la sociologie, l'économie. On peut avoir recours à des méthodes humaines pour vivre la vie chrétienne parfaite, mais on va vite s'épuiser à essayer de le faire. Il introduit quand même un mot d'espoir. Le verset 25, c'est plutôt la suite. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Cette expression de gratitude, de quoi il remercie Dieu ? Il remercie, en fait, c'est un remerciement à l'avance. Il ne remercie pas Dieu de son caractère d'homme malheureux, mais de ce qu'il va expliciter dans le chapitre 8, que seul Dieu peut amener le soulagement dans ce combat et, de façon ultime, la victoire. Et il dit au verset dans le même verset 24, après avoir dit « Je suis épuisé », il dit « Je suis désespéré ». Lorsqu'il dit « Qui va me délivrer de ce corps de mort ?», ça veut dire qu'il savait qu'il ne pouvait pas y arriver lui-même. Son combat, qu'il nous a décrit un petit peu, de façon saisissante, lui montre combien il est pécheur, combien nous sommes pécheurs. Et quand nous essayons de plaire à Dieu par nous-mêmes, nous arrivons vite à un sentiment de désespoir. Je suis épuisé, je suis désespéré. Une autre émotion négative, c'est je suis pris au piège. Il se demande qui va pouvoir le libérer, le délivrer. Ça veut dire qu'il se sent piégé. Nous aussi, nous sentons que notre vieille nature est là, qui nous ramène au péché. On est mort au péché, mais on n'a pas encore. Le péché n'est pas mort en nous, malheureusement. Et on a toujours cette vieille nature pécheresse qui veut nous garder dans ses griffes. Il avait fait l'expérience du salut sous son aspect de justification. Il était libéré de la pénalité, de la punition du péché, mais il n'avait pas encore fait l'expérience du salut dans le sens où c'est le moment où on arrive à vaincre la puissance du péché. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. La justification, dès que vous mettez votre foi en Christ, elle vous est accordée. Dieu vous voit comme Christ, mais après, il veut vous transformer. Rappelez-vous, on a dit, Dieu attrape d'abord le poisson, puis après, il va le nettoyer. Et cette sanctification, c'est là qu'il se sentait toujours faible, au point où il disait, et c'est la quatrième émotion négative, « Je suis condamné ». On a expliqué que l'expression « qui va me délivrer de ce corps de mort », ça faisait référence à une coutume terrible dans l'Antiquité. Dans cette ville de Tarsis, il y avait la pratique lorsqu'un homme était condamné à mort, on ne lui coupait pas la tête, on attachait un cadavre d'un homme déjà mort, on lui attachait un cadavre sur le dos. Il y avait non seulement le poids, et il était libre d'aller et venir, mais il avait toujours ce corps mort, en décomposition, qui finissait par lui transmettre la maladie et lui donner la mort. Et Paul se sentait condamné, comme nous bien souvent, à une vie de défaites répétées contre le péché. Ça, c'est les ténèbres dont le prophète Ésaïe parlait. Et Noël, justement, c'est le passage à l'espoir, c'est le passage à la lumière. Amen. Si Paul s'était arrêté au verset 24, ça donnerait une image bien sombre, bien triste, bien terrible de la vie de chrétien. Mais là, il nous dit, comme on l'a déjà évoqué, il remercie Dieu, c'est possible d'avoir la victoire sur le péché par Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis, on va lire les quatre premiers versets du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alléluia. Ça, c'est après l'errance en terre promise, le chapitre 6 de Romains nous parlait de considérer la vieille nature morte pour nous permettre, pour ainsi dire, de traverser le Jourdain, d'entrer en terre promise. Et là, le chapitre 8, c'est la vie telle que Dieu veut que nous en fassions l'expérience, avec la joie, dans la lumière. Il répond à ces émotions négatives que le péché entraîne. Je suis crevé, je suis condamné, je suis désespéré, je me sens piégé. Il nous donne ici des réponses à vivre au jour le jour dans ce combat quotidien que nous devons vivre contre le péché. Est-ce que vous vous sentez condamné ? Alors nous pouvons nous rappeler cette affirmation solennelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous n'avons pas à douter de cela. Nous avons été déclarés justes par la foi en Christ. Le Père Céleste a effacé l'ardoise de toute punition de notre péché. Nous avons été justifiés. Il n'y a plus de condamnation. Ça devrait faire partie aussi du message de Noël. Jésus est venu pour nous libérer de la loi du péché et de la mort. Par sa mort, il a effacé les accusations de l'ennemi contre nous. Nous ne sommes plus condamnés. Est-ce que vous vous sentez désespéré ? Cette émotion négative est si forte, si destructrice, mais il y a une réponse flagrante. Maintenant, nous ne sommes plus sous le coup d'aucune condamnation de la part de Dieu. Dieu nous a promis dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Dieu sait que nous avons ce combat. Des fois, une des tactiques de l'ennemi, c'est de nous isoler, de penser qu'on est tout seul à combattre les combats que nous menons contre le péché. D'abord, Dieu est au courant, mais il est très bon d'être ouvert et de trouver des personnes de confiance, des personnes qui peuvent être des vis-à-vis, et de leur partager vos combats contre le péché. Parce que sachez bien qu'eux aussi ont leurs propres combats, et peut-être qu'en vous mettant ensemble, vous pouvez être vulnérables et prier l'un pour l'autre, vous fortifier et être mieux à même de résister à ces attaques de l'ennemi qui veut nous faire croire que jamais un chrétien n'a fait de telles choses. Tu l'as fait, mais tu l'as refait. Et puis tu continues de le refaire. Dis, on a fini avec toi. On a fait la différence entre la condamnation et la conviction. La condamnation, c'est du de Satan, la condamnation de l'adversaire qui prend des faits qui sont réels. Pierre, tu as encore péché. Mais sa conclusion, qu'il veut me faire avaler son mensonge et de me faire croire que Dieu en a fini avec moi et qu'il m'a rejeté maintenant. J'ai épuisé le stock de grâce de Dieu. Et puis, il y a la conviction du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit me dit « Pierre, ce que tu fais n'est pas digne d'un enfant de Dieu ou tu me fais de la peine. » Là, c'est quelque chose qui nous amène à aller vers Dieu. Je suis dans le péché. La condamnation va m'envoyer encore plus loin de Dieu. La conviction du Saint-Esprit va me faire aller vers Jésus, vers Dieu. Je vais confesser mes péchés, demander le pardon, et il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toutes nos iniquités. Ça, c'est la théologie corrective. On pêche, on se laisse aller au péché, et après on peut demander pardon, mais c'est encore mieux d'avoir une théologie préventive. C'est un peu comme en médecine, on peut vous soigner après que vous ayez attrapé la grippe, ou alors on peut vous donner un vaccin, merci Christine, anti-grippe, qui vous permettra peut-être, s'il n'y a pas de nouvelles souches qui arrivent par les vols à Nice, à l'aéroport de Nice, de résister de façon préventive à la maladie. Est-ce que vous vous sentez piégé? On n'a plus non plus à céder à cette émotion négative de dire « Oh, je suis encore retombé dans le péché, je ne vais jamais m'en sortir. » Comme ces petits renards qu'on attrape dans la neige avec un piège qui se referme sur leurs pattes, dont ils ne peuvent pas s'échapper. Non, Romains 8, 2 nous dit « La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Ça, c'est merveilleux. La chaîne du piège a été coupée. Alors je peux comme un renard à qui on couperait la chaîne, je peux rester là à côté du piège, à me geler dans le froid et finir par mourir avec le sang qui coule, etc. Ou je peux m'éloigner de ce piège. Et nous aussi, on est libérés. C'est important de savoir que vous êtes libérés de ce piège. C'est intéressant parce que vous remarquez qu'il y a deux lois dont il est question, l'esprit de la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, et puis il y avait la loi du péché et de la mort que Jésus est venu vaincre à la croix. Et c'est ce qu'on célèbre à Noël, on célèbre la croix en fait. On célèbre la venue de Dieu qui s'incarne pour venir mourir pour mes péchés. Il y a deux lois. Alors, la loi, on a souvent fait allusion à la loi de l'Ancien Testament, les 10 commandements, les commandements qui sont décrits dans la Torah. La loi, globalement, c'est simplement un principe de cause et effet. Si vous faites ceci, voici ce qui va se passer. Si vous allez trop vite sur l'autoroute, vous allez être flashé et vous allez devoir payer une amende. Là, c'est aussi la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Si nous venons à Dieu, si nous recevons l'Esprit-Saint en nous, si nous efforçons de vivre par l'Esprit, ça va donner en nous la vie de Jésus-Christ, la vie en Jésus-Christ. Et cette loi-là, elle me libère de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui nous entraîne vers le haut et une loi qui nous ramène vers le bas, un principe qui nous ramène vers le bas. Une loi ne peut pas être supprimée. La loi de la gravité, l'effet de cause et effet, elle ne peut pas être supprimée. Mais une loi peut être supplanté par une loi supérieure. On a un principe qui est vérifié toutes les 3 minutes en ce moment à l'aéroport de Nice. Il y a d'un côté la loi de la gravité qui veut faire tomber les avions vers le bas, et puis il y a la loi du principe d'aérodynamique qui fait que si on crée un vide au-dessus de l'avion par des principes d'aérodynamique, avec une aile qui crée une dépression au-dessus de l'aile, cette loi, elle va finir, on accélère, et je vois un ingénieur qui sourit, elle va finir par équilibrer, et puis finalement elle va prendre le dessus, et c'est pour ça que vous vous retrouvez à regarder la baie des Anges de haut, alors que quand vous avez vu les chariots qui arrivaient avec les bagages des Américains, vous vous dites, on ne va jamais décoller. Et puis toutes ces personnes qui montent dedans, ces centaines de kilos qui arrivent comme ça, qui font la queue pour rentrer, et pourtant ça arrive à décoller. Pourquoi ? Parce que la loi de la gravité n'a pas été supprimée, comme pour mon crayon, mais elle a été supplantée par la loi de la portance aérodynamique. Et de la même façon, la loi du péché, elle est toujours là. Elle va toujours nous ramener vers le bas et nous faire nous cracher. Mais il y a la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Alléluia! Amen. C'est la loi qui fait qu'on n'a pas à se sentir piégé. On a dit qu'on pouvait se sentir épuisé. Mais là aussi, lorsque nous cessons de vivre pour Dieu par nos propres forces, alors là, un grand poids est levé. Au lieu de faire des efforts, de croire qu'en faisant ces efforts, on pourrait se sanctifier, soi-même, c'est ridicule. On est d'accord si on a suivi Romains jusqu'ici, qu'on n'est pas capable d'être déclaré juste par nos propres moyens. Que les 10 commandements, en fait, ils sont donnés pas pour nous permettre de grimper l'échelle et d'arriver tout seul en haut, mais pour montrer qu'on est incapable d'y arriver tout seul. Et si on n'est pas capable de se justifier nous-mêmes, qu'est-ce qui nous permettrait de penser qu'on est capable de se sanctifier soi-même ? Dieu, il continue, est celui qui nous a sauvés. Il est le seul qui va nous sanctifier par son Esprit Saint. Ça, c'est les versets. Ce qui était impossible à la loi. La loi, encore une fois, n'était pas mauvaise, mais notre vieille nature la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. L'Esprit vient nous aider. Il y a ce passage qui nous dit, on verra un peu plus loin, que l'Esprit nous vient en aide lorsque nous ne savons pas comment prier. Mais de façon générale, l'Esprit, c'est celui que Jésus nous a envoyé, notre consolateur, celui qui vient auprès de nous, le paraclet, celui qui est appelé à nos côtés comme un avocat, mais aussi quelqu'un qui vient nous aider. On voit dans tout ce qu'on a dit qu'on a besoin d'aide. Et seul l'Esprit Saint peut accomplir dans ma vie ce que Dieu veut que je vive pour lui. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des combats. Mais plus nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu en cherchant à obéir à la parole de Dieu, plus nous allons avoir la victoire sur le péché. Le Saint-Esprit, son but, c'est nous transformer à l'image du Fils de Dieu. Le problème, c'est que quand on lui dit « Non, merci, je vais y arriver tout seul », on rejette son aide. C'est une sorte de... C'est pas ce que la Bible appelle le blasphème du Saint-Esprit, mais c'est très sérieux, en quelque sorte. On dit « Non, non, j'ai pas besoin de toi, je vais y arriver tout seul. » Une vie sans combat, c'est impossible. Dieu nous déclare juste, mais après il nous transforme, il nous sanctifie. Mais c'est un processus plein de difficultés, d'échecs, de victoires, d'échecs. Pourquoi ? Parce que nous sommes morts au péché, mais le péché n'est pas mort en nous. Notre vieille nature est toujours là jusqu'à ce passage de l'autre côté de la mort, où nous serons en présence de Dieu. Et la meilleure chose à faire, c'est de se convaincre que je dois dépendre de l'Esprit-Saint dans ma vie. Pas seulement pour avoir des dons spirituels qui peuvent impressionner ou des dons. Non, les dons de l'Esprit, on en reparlera, c'est donné pour le bien du corps entier. C'est donné pour glorifier Dieu. Mais le Saint-Esprit, il est là pour nous donner la victoire. Et la meilleure façon de ne pas vivre dans la défaite, c'est de choisir de coopérer avec lui. Et là, on se trouve accepté, on retrouve l'espoir, on retrouve la liberté, on est restauré. Et finalement, on pourrait dire le choix, il nous appartient. Le travail lui appartient. Et il y a une grande libération. Il y a un passage des ténèbres à la lumière. Pour revenir à ce passage d'Ésaïe, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça, c'est Noël. C'est la victoire. Romains 8, on reprendra l'étude depuis le verset 1. C'est le Noël dans le Nouveau Testament. C'est la joie, la victoire, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Quelqu'un a comparé Romains 8 à un bijou. Un bijou et Romains, ça serait le bijou, la bague, et Romains 8, ça serait l'éclat de cette bague qui scintille. Donc j'espère que ça vous donne envie de plonger dans Romains 8, mais on va s'arrêter là. Ce soir, on aura probablement un petit message plus tourné purement Noël, mais en fait, Noël, c'est toute la Bible. C'est la bonne nouvelle de cette lumière de l'Évangile dans un monde de ténèbres. Et c'est curieux quand même comment tous les hommes aspirent à cette lumière. Il suffit d'aller se promener en ville, de voir que le nombre de guirlandes électriques qui se vendent, tout ça, cette lumière... C'est une manifestation matérielle d'une soif profonde. On a tous besoin de cette lumière. Prions. Seigneur, merci pour cette lumière que tu es venu faire briller dans nos ténèbres. Merci que toutes ces émotions que le péché entraîne, ce sentiment d'être prisonnier, d'être épuisé, d'être condamné, d'être désespéré, d'être piégé, tous ces sentiments négatifs qui font que on est mal dans nos corps, dans nos peaux, comme on dit. Seigneur, toi, tu es venu pour les effacer. Merci parce que tu, par ta victoire sur la croix, la victoire sur les pièges de Satan, Seigneur, tu peux nous donner de vivre dans la lumière. Seigneur, c'est ma prière pour nous tous, que nous puissions vivre vraiment cette période de Noël dans le sens que c'est une victoire sur les ténèbres qui veulent m'entourer, qui veulent me reprendre. Seigneur, sois glorifié dans notre église, dans cette ville. Merci pour nos frères et sœurs qui célèbrent aussi cette belle fête. Nous te remettons toutes les célébrations en ce jour ou en ces jours-ci, Seigneur. Merci pour les chorales, merci pour les visites auprès des réfugiés, Seigneur, et des migrants. Merci parce que tu veux faire briller ta lumière sur ce monde enténébré. Sois glorifié. Nous soyons aussi, nous, des réflexions de cette lumière autour de nous, Seigneur. Te le demandons dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.